Stéphane Diagana, bonjour, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me consacrer de votre temps entre deux trains. Je sais que vous êtes très, très pris et très demandé. En tout cas, merci de vous être arrêté à Paris.
Un grand plaisir.
Pour discuter, à la fois pour faire connaissance et discuter sur le sport et la philosophie. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par un écrivain grec. Nikos Kazantzakis. Un jour, on lui demandait qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. Je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Stéphane Diagana, et vous, qui êtes-vous?
C'est une belle, en tout cas, c'est une belle réponse. La mienne sera plus longue sans doute, peut-être moins riche finalement, mais plus longue. J'ai pas ce talent de concision, en tout cas. Il y a un mot qui m'intéresse dedans, c'est la liberté. Rechercher la liberté, quand on est sportif, c'est s'affranchir des déterminismes. C'est s'affranchir de déterminismes sociaux, de déterminismes naturels, et essayer de tendre vers, alors pour certains, un rêve, pour d'autres, un objectif. Mais en tout cas, c'est cette quête de liberté pour pouvoir écrire sa vie le plus largement possible. Donc je suis dans cette démarche-là. Dans cette quête, donc ça c'est un des éléments, je pense, qui me caractérise, et ça m'amène à essayer de développer des compétences, à essayer de développer des connaissances, parce que je pense que pour être libre, il faut ça, il faut des compétences, celles que l'on veut développer, il faut faire des efforts pour les acquérir, et puis des connaissances. Et ça c'est pour ça que l'éducation est essentielle, c'est le premier pas vers la liberté et vers l'autonomie. Donc ça, c'est une quête permanente, ça m'amène à être curieux, à rencontrer beaucoup de gens dans des univers différents et à me passionner des récits de gens passionnés, quel que soit le domaine. Parce que quand j'ai des gens passionnés, ça fait souvent des gens heureux, pas toujours, mais le plus souvent des gens heureux, avec une sorte de flamme, une envie de partager, une envie de... Et bon, on est bien avec les gens heureux en général, les gens
se sentent
bien
ensemble. Je confirme.
C'est plus sympa. Donc voilà, et puis, oui, c'est voilà, quelqu'un, une personne en quête de cette liberté, de partage, d'échange, et voilà, d'expériences nouvelles, mais avec toujours l'objectif de construire, l'objectif de remettre en question parfois certaines choses. Ou au contraire, quand je suis dans l'échange avec une personne, de pouvoir conforter des idées. Mais je suis toujours prêt à rencontrer des personnes qui viennent me challenger sur des idées. Et je me dis, bah tiens, j'ai eu une mauvaise idée, une mauvaise vision des choses pendant 20 ans. Il est toujours temps d'en changer. Si là, vraiment, les arguments me paraissent convaincants.
Alors, ce qui est génial, c'est que dans votre réponse... vous avez évoqué toutes les questions que je vais vous poser. Donc c'est ça qui est génial. Vous avez fait un résumé, vous avez un esprit de synthèse. Vous voyez que vous avez cet esprit de synthèse. Tout simplement, est-ce que vous pouvez très rapidement nous livrer les grandes lignes de votre carrière professionnelle, de carrière sportive?
Alors je vais parler, oui, de mon parcours d'athlète, de sportif, et puis je vais forcément l'inscrire plus généralement dans mon parcours de vie.
Tout à fait.
Parce qu'il prend son sens aussi dans ce contexte-là. Et puis il est possible aussi dans le contexte que j'ai connu. Donc moi je suis le plus jeune garçon d'une fratrie, on est trois frères. Je suis le plus jeune et mes parents, ma mère était institutrice à la retraite. Mon père, lui, est né au Congo, dans les colonies françaises à l'époque. Donc il est né français en 1938. Et puis il s'est engagé dans la marine française, militaire dans la marine. Il a rencontré ma mère à Toulon, où là où il était basé à ce moment-là. Et puis il a quitté la marine, il a suivi ma mère. Et puis au gré de ses mutations, d'abord en Normandie, moi dans la région parisienne, je suis né dans l'Aveyron parce que ma mère a ses attaches dans le sud-ouest. Elle est née dans le Tarn et je suis né en vacances l'été, donc elle était dans l'Aveyron à ce moment-là. Et puis après, j'ai grandi mes 10 premières années à Saint-Denis. Ma mère était en poste là-bas et puis après dans le Val d'Oise. Donc j'ai commencé l'athlétisme à 10 ans, quand, dans le Val-d'Oise, quand ma maman était mutée. Et je savais déjà que je voulais pratiquer l'athlétisme très tôt. Très tôt. Le jour où j'ai su que le sport où on courait s'appelait l'athlétisme, j'avais 7 ans peut-être, mais j'aimais tellement courir. Tout ce qui était prétexte à courir, j'aimais tellement ça, ça me nourrissait. Et j'imagine que c'était pour tout le monde pareil. Et puis, avec le parcours qui est le mien, je crois pas me tromper en disant que c'était sans doute un peu particulier pour moi. Donc, il y avait une sorte de passion, de quelque chose qui me nourrissait. Et mon parcours sportif, c'est ça qui est, que j'ai toujours rappelé, c'est fait d'abord sur la passion. Donc, avec cette motivation intrinsèque très forte, des sensations très très fortes que j'ai pu retrouver sur la piste des années après, des choses que j'ai vécues dans des cours d'école dont je pourrais me souvenir, que j'ai retrouvées sur la piste, ces moments où le temps et l'espace peuvent être habités d'une façon différente. Quand vous êtes sportif et que le chrono, les écarts se mesurent en centièmes de seconde, le centième de seconde c'est une réalité, c'est une réalité, vous vivez cette réalité de manière émotionnelle, parce que c'est celle qui peut vous rendre heureux si vous êtes un centième devant par rapport à ce que vous vouliez, celle qui peut vous rendre malheureux. Donc le centième prend un sens complètement différent, et l'espace aussi. Ce que vous jetez sur la ligne, vous regardez et vous voyez si vous êtes premier, deuxième. Et c'est dans ce centième que va se réaliser 4 ans d'effort. Et c'est une expérience qui est unique. Dans la vie aujourd'hui, mes journées, parfois je ne suis pas capable de dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette journée il y a 3 semaines. Voilà. Là, j'ai des souvenirs.
C'est et comme instanté, vous en rappelez.
Exactement. Quoi, j'ai, pour résumer, je dis souvent j'ai des tranches de vie qui ont l'épaisseur du centième. Dans lesquelles vraiment j'ai pu habiter le temps et l'espace pleinement, parce qu'une fois, il y a une réalité physique, un espace, et cette forme de dilatation du temps et de l'espace. Beaucoup de sportifs en parlent. Parfois, on parle d'être dans la zone où on a l'impression, dans un temps très court, on arrive à faire plein de choses. Donc, il y a des chercheurs qui essayent de comprendre ça, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que plus on progresse, plus on habite le temps, et de manière très intense, dans des temps très très courts. Et ça, bon, alors, je pense qu'on court après ça aussi. Il n'y a pas que ça dans le sport. Il y a l'émotion, il y a la joie. Mais il y a ce rapport au temps et à l'espace où il se passe plein de choses dans les temps très très courts. Donc du coup, voilà, j'avais cette passion-là quand j'étais gamin. Et puis après, j'ai eu la passion de l'ingénierie de la performance. Parce que quand on veut viser l'excellence dans tout domaine, hein, je crois que je dis souvent l'excellence est un sport toujours collectif. Oui. J'ai pratiqué un sport dit individuel. Mais l'excellence est toujours un sport collectif. Et dans tous les domaines, quand on recherche l'excellence, on est obligé d'aller chercher des gens pour nous aider. Et on est obligé de demander. On est obligé d'apprendre à dire bah, « ça, je ne sais pas, il faut que j'aille voir ». Et je trouve que c'est un très bel enseignement, et c'est surtout une formidable opportunité de rencontre. La quête de l'excellence, c'est une opportunité de rencontre, de remise en question forte sur le plan individuel, de développement personnel, donc, mais de rencontre avec des gens qui ont des savoirs qui vont vous être utiles à un moment, alors qu'au début de votre carrière, vous n'imaginez pas que ça puisse vous être utile.
Et des rencontres avec les autres, mais avec soi-même, avant
tout.
Bien sûr. Parce que, est-ce que le sport, c'était une question que je voulais vous poser, mais la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, le sport, c'est l'amour de quoi ? Est-ce que le sport est un miroir pour l'homme, mais c'est l'amour du corps, de l'esprit, de l'âme, de quoi ?
Ah, je crois que le sport, ça exprime une des facettes de l'être humain. La sagesse doit être là, bien sûr, mais je dirais que ça exprime la quête du progrès.
La quête du progrès.
La quête du progrès. Quand vous vous entraînez, tous les jours, vous recherchez à progresser. Donc c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de domaines, mais ça l'exprime très fortement, de manière presque obsessionnelle parfois. Et donc... quand on est dans la quête du progrès, on est toujours dans la recherche. Dans la recherche, hein, la recherche est très présente, c'est très liée au sport. Et d'ailleurs, il y a des découvertes ou des développements ou des progrès qui sont amenés par le sport, qui derrière sont utilisés dans d'autres domaines de la société, profitent plus largement. Et on est vraiment dans cette logique-là. Mais quand on est dans cette logique-là, comme dans la recherche, à un moment, on est confronté à la question de la sagesse. Comment y arriver, la fin ? Justifie-t-elle les moyens, les problèmes de dopage, les problèmes de respect de l'intégrité du sportif. Et ça aussi, ça m'a intéressé. Comment je vais y arriver ? Ouais. Qu'est-ce que je mets en œuvre ? Et que suis-je prêt à accepter ? Et moi, il n'était pas possible de renoncer à ce que j'étais profondément. J'étais prêt à perdre, à ne pas y arriver, à faire tout ce travail parce que j'aimais ce que je faisais. Et j'ai ce combat-là, même si j'ai pas eu de tentation, mais de se dire, y en a d'autres qui vont utiliser des raccourcis. J'ai eu un entraîneur formidable, Fernand Hurtubise, qui m'a accompagné pendant les 16 dernières années de ma pratique toute ma carrière en fait à haut niveau et qui avait cette vision-là. C'est un outil de développement personnel, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous handicaper par la suite, pour vous dégrader moralement, pour dégrader physiquement et faire ça dans une intégrité morale et physique et accepter ses propres limites si elles vous amènent seulement à une finale de championnat de France ou une sélection en championnat d'Europe.
Mais alors, vous avez, voilà, vous êtes champion du monde, champion du 400 mètres et...
Voilà, et du relais 4x400 mètres.
Du relais 4x400 mètres. La question sur la sagesse, vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que le sportif est sage pour pouvoir réussir une course, ou est-ce que c'est finalement le fait de réussir qui le fait tendre vers la sagesse?
C'est une bonne question. Non, je ne pense pas que le sportif soit sage par définition. Les itinéraires sont très très différents, les motivations sont très différentes, et donc ça fait des profils qui sont complètement différents. Mais à un moment ou à un autre, le sport va vous interpeller sur le comment.
Oui.
Voilà. Il y a le pourquoi au départ. Donc ça, c'est ce que je dis, les motivations sont très différentes. Et après, il y a le comment. Comment je le fais? Il y a des règles, il y a un cadre. Comment j'y arrive? Mais c'est vrai dans d'autres domaines. C'est vrai dans la politique, c'est vrai dans les affaires. Et ce qui est intéressant dans cette tension entre l'envie de réussir très forte, les moyens qui sont mis en œuvre, donc qui créent une envie de retour sur investissement presque, notamment pour des gens qui ont une motivation très extrinsèque, qui sont très centrés résultats, mais qui au quotidien vivent les choses comme des sacrifices, les choix comme des sacrifices. Moi, je n'ai jamais fait de sacrifice, je n'ai fait que des choix. Et donc, je ne suis pas à plaindre, j'ai vécu de ma passion tous les jours, donc je ne veux pas parler de sacrifice par respect pour les gens qui en font vraiment. Mais je parle d'engagement, par contre.
Oui, d'accord.
D'engagement très fort, de choix, mais pas de sacrifice.
Alors, est-ce que le choix, ce n'est pas faire un choix de par notre libre arbitre? Est-ce que ce n'est pas finalement mettre de côté autre chose qu'on aurait pu faire mais qu'on choisit de ne pas le faire pour... Et donc, est-ce que faire ce choix, ce n'est pas un sacrifice de finalement d'effacer l'autre ou de le mettre de
Alors,
côté
pour moi, je ne le vois pas comme un sacrifice parce que j'ai toujours la liberté de renoncer.
D'accord.
C'est un projet que j'ai choisi. Ce n'est pas comme quand on va à l'école où on dit l'école est obligatoire, on doit y aller. C'est pas comme... Je prends souvent cet exemple, mais une personne qui est dans un pays où la seule activité industrielle, c'est la mine, et qu'il aimerait bien faire autre chose, mais il n'y a que ça pour faire vivre sa famille, et que tous les jours, il descend à 100 mètres de fond, avec les risques, avec tout. Lui, c'est un sacrifice.
Oui,
il n'a pas de liberté. Moi, j'ai la liberté. Personne ne m'a poussé dans ce chemin qui est rude parfois, parce que c'est parfois beaucoup d'engagement, et puis une désillusion avec la blessure, avec... Mais c'est un choix de parcours, de vie, c'est un choix d'expérience. Et quand on se lance, on est prêt à l'alternative. On réussit ou on ne réussit pas. Mais de toute façon, si on veut réussir, il faut investir, il faut se lancer. Et c'est pour ça, pour moi, j'ai 24 heures, on a tous, c'est le même capital, ça, c'est réparti pour tout le monde. On a
c'est
tous
ça.
24 heures, on n'en fait pas la même chose. Oui. On ne les fait pas fructifier de la même façon. Mais on a tous 24 heures, ça c'est la richesse la mieux répartie au monde, le temps. Et donc, avec ce temps, on fait tous des arbitrages, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Est-ce que c'est sortir avec les petits copains, mais au risque d'hypothéquer, ou au contraire, non, laisser ça de côté? Parce que finalement, mon projet, c'est celui-là.
C'est
et il demande ça, donc j'ai fait ce choix-là.
Vous êtes très, très spinoziste, si je puis dire. C'est Spinoza qui dit que le libre arbitre, donc cette capacité de choisir, c'est ce qui nous permet de devenir qui nous sommes. Dire c'est par cette liberté que j'atteins mes objectifs, comme vous dites. Stéphane Yagana, il y a une question que depuis tout à l'heure je voulais vous poser, mais j'attendais le moment opportun pour la poser. Vous avez utilisé, depuis le début de la discussion, nous utilisons deux mots, mais j'aimerais avoir votre définition. Qu'est-ce que le sport et qu'est-ce qu'un sportif?
Qu'est-ce que le sport et qu'est-ce qu'un sportif? Alors, si on, y a beaucoup de définitions du sport. Je travaille beaucoup sur des sujets sport santé. Je ne vais pas rentrer dans ce. Mais le sport peut être vu comme une activité physique à but ludique et récréatif, avec ou sans compétition.
Voilà. Oui.
Donc, la compétition n'est pas co-substantielle au sport. Le sport existe sans compétition, dans le jeu, dans le loisir. Du moment qu'on se détend en pratiquant une activité physique, c'est du sport. Après, il faut bien sûr qu'il y ait une codification. Dans le sens classique, il y a quand même une codification avec des règles. C'est un jeu qu'on accepte de pratiquer l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, avec des règles qui sont bien, bien codifiées. Et après, ben, le sportif, si je devais le définir, et je l'ai déjà défini, je pense que c'est quelqu'un qui, dans ce contexte-là, dans ce cadre de contraintes, va essayer d'exploiter au mieux son potentiel, de le faire grandir et de se découvrir soi-même grâce à ça. Je pense qu'il y a... C'est pas forcément la motivation, mais je pense que ce qui maintient le sportif, ce qui maintient des grands champions comme Rafael Nadal, je veux dire, si sa motivation n'était qu'extrinsèque, aujourd'hui, il aurait arrêté le tennis depuis longtemps. Mais c'est parce qu'il y a un enrichissement dans chaque phase de vie, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire comme il faisait avant. Il doit s'adapter. Il a pris de l'âge, c'est de l'expérience en plus, mais c'est de la fragilité. Donc, il doit faire différemment, mais toujours exceller. Et donc, faire différemment, c'est une occasion de se découvrir aussi différemment, de développer d'autres ressources. Et je crois que c'est ce qui anime beaucoup de sportifs. Ce n'est pas forcément verbalisé, mais je crois que dans la réalité, c'est ce qui anime beaucoup de sportifs et qui explique la longévité de beaucoup de très, très grands sportifs. Cette envie de vivre des sensations, mais cette envie aussi de se construire autour de la difficulté. Oui. Donc, le sportif, c'est quelqu'un qui aime la difficulté.
Qu'il la cherche ou pas ?
Il ne la cherche pas, il sait qu'elle est là.
Oui.
Il aime la difficulté dans un cadre choisi. Ce n'est pas une difficulté subie, c'est une difficulté choisie. Et s'en servir pour essayer de développer des ressources, en fait. Développer D'accord. des ressources personnelles. Donc, c'est trouver dans cette difficulté une opportunité de développement personnel, de découverte de soi, découverte des autres, bien sûr, de découverte des autres dans le travail aussi, dans la relation collaborative. Et puis de développement personnel. C'est Moi, ça. C'était une de mes plus grandes angoisses quand j'ai arrêté, c'était de ne pas trouver des relais de développement personnel aussi forts que la compétition.
Mais vous les avez trouvés.
Je les ai trouvés parce que heureusement, on n'apprend pas tout sur les terrains de sport.
C'est ça.
Et il y a plein d'autres choses qui.
Mais vous venez d'utiliser un mot important, à savoir la fragilité. Mm-hmm. Le sportif n'est-il pas celui qui est le plus proche que d'autres? Que moi, lambda, que toute personne, mon sportif, si je puis dire, le plus proche de ses fragilités. Vous avez été obligé d'abandonner un moment parce que voilà, vous étiez blessé, etc. Devant les fragilités d'un grand sportif, devant les fragilités que vous avez eues lors des compétitions, quelle a été votre posture et votre mise en question, finalement?
Oui, alors les fragilités, oui, elles peuvent être physiques et mentales, bien sûr. On le voit dans le sport et le sportif est naturellement assez exposé par rapport à ça et très très conscient aussi parce qu'il y a un rapport au corps pour la partie physique notamment, très très conscient des choses parce qu'on a un rapport au corps qui est hyper sensible.
Oui.
C'est-à-dire que le corps nous parle de manière très très précise. Et dans beaucoup de domaines de la vie aujourd'hui où on reste assis sur une chaise, le corps, malheureusement, il ne parle que quand il est malade.
Oui,
sinon, on ne sait même pas qu'il est là. Nous, il s'exprime tous les jours par des courbatures, par des temps de contact au sol qui ne sont pas les bons. Donc, on a une interface avec le corps qui est très, très, qui est très, très fine et on le sent vieillir. On le sent vieillir plus vite, de manière plus fine, sans doute que beaucoup de gens. C'est la différence. La différence, elle est là. C'est-à-dire que moi, j'étais capable de me rendre compte que avant 26 ans, la récupération c'était une chose. Après 26 ans,
c'était plus difficile.
C'est très voilà. Et ouais. Les sportifs pourraient vous dire à quel moment ça bascule et ils ont besoin d'être un peu plus vigilants sur leur hygiène de vie, mais leur récupération, les phases de récupération. Donc, on a un rapport qui est très très sensible à notre corps. Et ça, voilà, ça fait cette spécificité sans doute.
Oui. Mais alors le corps vous parle et je dirais le sportif parle à tous ceux qui l'acclament. Moi, je me suis toujours posé là. J'ai toujours été en admiration et me suis toujours posé la question devant l'engouement que suscitait le sport. On voit dans les stades, on voit pendant les JO, on voit toutes les personnes qui vous ont, des milliers de personnes qui vous ont acclamé, qui vous ont encouragé dans les stades, etc. À votre avis, quel est le moteur du fait que le sport fédère l'humanité?
Oui, c'est vrai que c'est à peu près universel, ce rapport au sport et aux sportifs, ce rapport aux champions.
Si ça revient dans l'Antiquité, en fait. Voilà, c'est ça.
Voilà, ce rapport aux champions, et en fait, c'est cette, le sportif, le champion, c'est à la fois quelqu'un qui est comme vous. Voilà, il y a une possibilité de, je dirais en termes de, si on regardait le patrimoine génétique, à 99,9%, 99%, c'est le même pour quelqu'un qui est champion, qui n'est pas champion. Donc on se dit, c'est insemblable. C'est insemblable, mais il fait des choses extraordinaires. Et donc, si c'est insemblable et qu'il fait des choses extraordinaires, peut-être que moi aussi, je peux. Donc c'est quelqu'un qui donne de l'espoir. C'est quelqu'un qui donne de l'espoir. Et il y a beaucoup de transpositions comme ça qui peuvent se faire. Moi, j'ai reçu des courriers, et je vais vous donner un exemple. J'étais blessé l'année des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. C'était vraiment l'année où je pouvais aller chercher un titre olympique, blessé malheureusement. Et puis l'année d'après, fort de cette expérience, je suis champion du monde. Et il y a tout, sauf un hasard, entre ces deux temps de ma carrière. Si j'enlève peut-être ce moment de fragilité, ce moment de grande difficulté dans ma carrière, le moment de ouais. plus beau moment de ma carrière ou l'un des plus beaux moments de ma carrière un an après n'existe peut-être jamais. Donc il y a ce lien. Eh bien, j'ai reçu dans cette période un courrier d'une personne qui souffrait d'une maladie difficile et qui m'a dit vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a donné de l'espoir.
Ah oui,
et alors, c'est une sorte de transposition, de dire si c'est possible, on peut être. Et donc le sportif, il incarne ça. C'est une vie en noir et blanc, avec des hauts et des bas, comme tout le monde finalement peut le vivre. Et quand il gagne, après avoir connu des moments difficiles, parce que c'est souvent après avoir connu des moments c'est difficiles, ça. Aucun champion ne gagne en n'ayant jamais de problème. Tout le monde. Donc on se dit finalement c'est la vie. Et s'ils peuvent le faire, c'est une forme d'espoir. C'est un petit message qui se dit moi aussi peut-être que à mon niveau. Je peux être champion. Et mon entraîneur disait, avant d'être champion du monde, il faut être champion de soi-même. Donc c'est aussi une démarche, c'est aussi de la discipline, et c'est ce qui illustre le sport, c'est ce qui crée ce lien. Et c'est pour ça que si ce lien est rompu, on pourrait imaginer que la technologie fasse qu'on va avoir des hommes et des femmes augmentés, et que ce ne soit pas du tout accessible à la population qui regarde. Ça, le lien sera rompu, et là, du coup, on n'aura plus le même rapport. On n'aura plus ce même rapport d'émerveillement en se disant ça m'est possible, c'est possible pour moi aussi, c'est insemblable. Non, ce ne seront plus des semblables, ce seront des robots, ce seront des. Mais oui. C'est ce lien, c'est ce fait qu'on soit complètement semblable sur le plan biologique, sur le plan qui crée ça, à mon avis.
Mais alors, dans le sportif, vous avez donc finalement, comme vous venez de résumer, il y a à la fois la volonté, tout part de la volonté. Mm-hmm. La capacité, voilà, je suis capable.
La volonté d'écrire sa vie, tout le monde l'a.
Tout à fait.
Mais dans le sportif, il y a une forme d'obsession à vouloir affronter les destins contraires, je dirais, et aller sur celui que l'on a envie de se dépasser, de se construire.
Mais alors, entre la volonté et la capacité, et finalement la finalité qui est la construction, le dépassement, quelle est la place de la raison, de la réflexion? Est-ce qu'un sportif réfléchit en même temps qu'il agit? Vous qui avez été, vous parliez tout à l'heure, je trouvais ça hyper intéressant, du centième qui vous propulse finalement comme champion du monde, etc. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir, ou la réflexion se fait beaucoup plus en amont pendant l'entraînement, et le jour J, vous y allez, et puis voilà.
Dans le sport, le temps de la réflexion est bien souvent trop long par rapport à la nécessité de l'action. Si vous êtes en train de shooter au basket et que vous avez deux défenseurs qui viennent sur vous, que vous êtes en déséquilibre, que vous regardez l'horloge qui tourne et qu'il va falloir shooter, réfléchir c'est trop long. C'est pas possible. Oui. Donc là on est plus dans le sport, on est souvent dans des choses qui relèvent de l'informatique. D'accord. Donc comme je le disais, on développe une hypersensibilité, un rapport au corps, un rapport à notre positionnement dans l'espace. Donc on a des capteurs qui grâce à l'entraînement deviennent plus précis, plus pointus, sont capables d'acquérir des informations très vite, de les intégrer, parce que ce sont des informations sensorielles diverses, et de donner une réponse adaptée dans des temps très très courts. Donc on est dans de l'informatique et on n'est pas dans de la réflexion dans ce temps-là. C'est pas possible. Le marathonien qui est dans un temps plus long, il peut être dans la réflexion. Quoique, ça ne va pas durer très longtemps, parce que très vite, il va être pris par la gestion de ses ressources, l'oxygénation, donc ça va être décision, action, mais ça ne va pas être des longs réflexions. Par contre, en amont, pour pouvoir mettre en place des stratégies, travailler, faire des choix. Oui, bien sûr, là, il y a de la place pour la réflexion dans l'analyse de données, l'analyse de l'adversaire. Mais ce sont deux temps qui sont séparés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'il est indispensable d'avoir des routines de transition entre ces deux temps. Le joueur de tennis qui fait rebondir la balle, qu'est-ce qu'il fait dans ce moment-là? Il prépare son geste, mais il prépare surtout le transfert, d'un fonctionnement, quoi, le passage d'un fonctionnement du cerveau où il est en train de se dire « mince, ce point-là, je l'ai perdu », où là, il est dans la réflexion, et passer à l'action. Où c'est pas possible de faire et d'agir et de réfléchir.
Vous étiez sur le terrain, dans les stades, vous regardiez quand même vos. Est-ce que vous étiez complètement focus
pendant la course?
Est-ce que la réflexion, parce que vous aviez quand même vos concurrents à côté.
On voit, on perçoit, on essaye d'exécuter ce que l'on sait faire. La discipline qui est la mienne, en plus, le 400 mètres haies, exige d'autant plus parce qu'on a des haies dans le couloir. Et je dis, ce sont les adversaires les plus dangereux. C'est-à-dire, si on tourne la tête pour voir l'adversaire, ça peut mal se passer. Donc, on est vraiment dans une logique d'exécution au mieux de ce que l'on a préparé et de ce que l'on sait faire, comme si on est pour un récital et on est jugé. Là, c'est un petit peu la même chose. Et on se dit, on a fait un pari, on a estimé le potentiel de ses adversaires, on a estimé son propre potentiel, on se dit, si je fais bien ce que je sais faire, même si eux, ils font au top, ils sont au mieux de ce qu'ils peuvent faire, je pourrais gagner, ou je pourrais être sur le podium, ou je pourrais être... Donc on est concentré finalement sur ce que l'on maîtrise, et ce que l'on maîtrise, c'est ce que l'on sait faire. Mais quand je parlais de ces transitions-là, nous on a quelque chose qui est formidable pour nous faire passer d'un état à l'autre, c'est le « à vos marques ». C'est presque une formule d'hypnose. C'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on peut se dire, moi ça m'est déjà arrivé sur des courses, me dire, ah, ça va mal se passer, ceci, cela, et à vos marques, c'est fini, il n'y a plus une pensée. Il n'y a plus une pensée, c'est complètement animal, c'est le cerveau reptilien qui est à l'affût pour percevoir les sons, le vent, le...
Est-ce qu'il y a encore une temporalité dans ce à vos marques? Parce que finalement, vous dites, on est comme des animaux. Alors, on n'est plus un animal qui pense, comme dit Aristote, mais on est un animal qui va agir, qui va... Ouais. Et dans cet instant T, où est le concept d'espace et de temps? Parce que vous êtes complètement tellement concentré sur la chose.
Ah bah oui, on est là, on est en plus dans cette position immobile, dans l'attente. C'est peut-être les seules fois dans ma vie où je peux trouver le vide de la pensée. Ouais. Aussi fort, c'est difficile de ne pas penser.
C'est ça.
Et là, c'est peut-être les seuls moments dans ma vie où la course, que à partir de ce moment où il y a le à vos marques, et particulièrement dans les starting blocks et dans la course, c'est pas de la pensée. Il n'y a rien qui peut rentrer.
C'est l'instant. Vous parliez d'animalité.
C'est du traitement. Pour moi, c'est du traitement de données. On est dans du traitement de données. On perçoit, le corps vous parle. Je dis souvent un appui au sol, une réception de air, on va dire, c'est 140 millièmes de seconde. Au début de ma carrière, je n'étais pas capable de dire ce qui se passe. À la fin, j'étais capable de dire à mon entraîneur, l'appui se dérobe légèrement en 140 millièmes de seconde. On est capable de sentir, l'appui se dérobe légèrement. Il y a sans doute un problème dans le travail de musculation, de renforcement qu'il faut qu'on fasse. Donc, vous discutez avec un nageur, il va vous parler de bassin rapide. Vous discutez avec un coureur, il va vous parler d'une piste rapide, qui est un temps de renvoi mécanique rapide, et vous pourrez l'objectiver avec des mesures physiques. Donc ça veut dire que cette interface-là, elle est complètement comme un peu quelqu'un qui perd la vue et qui développe l'ouïe, ou qui perd l'ouïe et qui développe la vue, dans un sens inverse, c'est plus fréquent. On est livré à nos sens.
Mais alors, est-ce que le sportif de haut niveau que vous êtes, est-ce que vous visez... Parce qu'on entend les deux, et je me suis toujours posé la question, et même les définitions de ces concepts, visez-vous la perfection ou l'excellence? Et quelle est la différence entre les deux pour les sportifs de haut niveau?
C'est une bonne question. Moi, j'aime bien l'excellence, la notion d'excellence.
Comment la définissez-vous, cette notion?
La perfection, je vois la tâche, je vois l'excellence, je vois le comportement aussi en plus. La perfection, je vois la réalisation, mais l'excellence, je trouve que c'est plus riche encore, et souvent ça amène à la perfection, parce que il y a des choses qui relèvent du comportement. La perfection, je ne le vois pas dans l'individu, je le vois dans la tâche, dans la réalisation. L'excellence, je le vois et dans la réalisation et dans le comportement. Et on a besoin d'excellence dans la maîtrise de ses émotions. Mais je ne parlerai pas de perfection dans ce sens-là. Je parlerai plus d'excellence dans la maîtrise de ses émotions, dans la gestion.
Il y a un équilibre.
Oui, bien sûr. Il faut en faire une force. Il faut apprivoiser le stress. J'ai cherché pendant longtemps à le détruire, à l'anéantir, et j'ai compris que ce n'était pas possible. Ce qu'il fallait, c'était l'apprivoiser comme une bête sauvage, le regarder en face et comprendre en quoi il peut vous aider, ce stress. Il y a certains psychologues qui parlent de stretch, celui qui vous étire, qui vous amène vers le haut, et puis le stress qui vous écrase. Et bon, voilà, c'est passé du stress au stretch. Je ne connaissais pas ces mots-là, mais je me disais, non, le stress, il est bien. C'est lui, c'est un... Mais il faut qu'il soit ponctuel. Ce qui tue la société aujourd'hui, c'est le stress chronique. Mais ce stress ponctuel-là, il est nécessaire.
Alors, c'est intéressant, cette notion de stress et stress que je ne connaissais absolument pas. Mais le stress, c'est le stress de ne pas être à la hauteur, de perdre, de ne pas réussir. Le stress, c'est quoi dans le...
Oui, il y a beaucoup de choses. C'est une discipline à impact physique fort, donc on sait qu'on va devoir, même quand c'est dur, demander plus encore. Donc il y a cette dimension là que vous n'avez pas sur le 100 mètres. Par contre, vous avez un autre stress sur le 100 mètres, c'est que tout joue très vite. Donc les natures de stress ou le contenu du stress est très différent d'une discipline à l'autre. Donc bien sûr, c'est dans une discipline comme la mienne, il y a des haies. Donc même si vous dominez votre discipline, les haies peuvent tout remettre en cause sur un 400 plat quand vous dominez. Bon, vous dominez, c'est l'aléa est moins fort. Là, vous faites une petite erreur sur une haie et tout de suite, c'est une demi-seconde qui part et vous êtes remis au niveau de tout le monde. Donc, vous en parlez avec un coureur de 110 mètres haie, c'est encore plus sur la brèche. Donc, le stress de la faute est là. Et puis, c'est ce stress de ne pas réussir à mettre en œuvre ce que l'on souhaite mettre en œuvre.
Oui, mais alors, est-ce que c'est aussi ne pas réussir je dirais à la fois ne pas réussir et aussi trahir. Ne pas réussir, c'est se trahir soi-même peut-être, et n'est-ce pas aussi trahir toutes les personnes qui vous encouragent depuis des années, qui sont dans les stades, qui vous acclament?
Alors peut-être que ça, c'est un fond de stress inconscient. Oui. Consciemment, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce que je me suis toujours dit, voilà, si je veux faire plaisir à mon entraîneur, il faut d'abord que je me fasse plaisir à moi-même. Hein. Le sportif, il est assez égoïste, mais par conséquent, il sait que ça doit passer par là. Oui. Il sait qu'il doit ne prendre que ça en compte. S'il veut, derrière, faire plaisir à ses supporters, à sa famille, à ses amis, à son entraîneur. Donc, ça rentrait pas trop en ligne de compte. Non, c'était plus le fait de ne pas, au moment où c'est important, au moment où la chance est donnée, de ne pas réussir. Et là, assez souvent, j'ai pu réussir assez bien en championnat. Pourtant, mais malgré tout, c'est toujours là, parce que c'est pas parce que vous avez réussi hier que vous réussirez demain.
Oui. Alors malheureusement, l'interview va bientôt se terminer. J'avais encore deux questions. La première, c'est dans l'Antiquité, Platon sublimait d'une certaine manière, en tout cas les philosophes antiques, la beauté du corps du sportif, qui était liée à l'éducation. Voilà, il y avait un équilibre de vie, il y avait une harmonie, etc. Actuellement, chez les sportifs de haut niveau que vous êtes, pour vous, quelle a été la place de la beauté du corps dans votre discipline, et pour vous-même?
J'ai jamais été dans une vision esthétique. Le corps, pour moi, c'est un véhicule, un outil. Avec, quand je dis un outil, c'est pas très beau, c'est réducteur, mais je veux dire le point de départ d'un projet, en fait. Donc, l'idée pour dans l'entraînement, c'est de mettre en place des stratégies d'entraînement qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Et forcément, ça modifie le corps. Vous allez faire telle forme de musculation, ça va modifier le corps. Et après, j'ai pris comme c'est plus facile pour un homme dans notre société que pour une femme. J'ai entendu beaucoup de femmes se poser la question de dire mais je vais prendre des... Donc, il y avait cet objectif d'aller dans la performance sportive, mais je vais prendre des cuisses, je vais être musclé. Donc, je ne serai pas dans les canons de la beauté avec toute cette dictature des stéréotypes. Pour nous, pour les hommes, c'est moins gênant parce que Peut-être qu'il y a plus de tolérance sur les différentes morphologies, et puis que de toute façon, ça tend vers des canons qui sont des canons, voilà, de muscles, de voilà, qui incarnent la virilité.
Est-ce qu'il y a pas un engrenage finalement chez le sportif de haut niveau de garder ce corps, et même lorsqu'il prend sa retraite, après avoir pris sa retraite?
Alors moi, j'ai effectivement un souci de garder le corps, mais pas pour l'enveloppe. L'enveloppe a été une conséquence quand j'ai été sportif. Je dirais la morphologie a été une conséquence de ce que j'ai mis en œuvre pour mon projet, et le corps s'est soumis à ça. Voilà, c'est quoi? C'est adapté à ça, pardon. Et aujourd'hui, mon seul souci, c'est de garder ma santé, garder, parce que je sais à quel point ça conditionne mon bien-être psychologique, mon bien-être social, mon bien-être physique. Et donc, je pratique le sport pour ce bien-être. Pas pour le corps forcément, et d'ailleurs aujourd'hui je fais des disciplines, je dirais, de demi-fond, qui m'ont fait perdre du poids, qui m'ont fait perdre du muscle. C'est pas un sujet pour moi, peut-être plus pour mon épouse, qui aimerait bien que je me remplume un peu par rapport à l'époque où je faisais du 400 mètres, où je passais beaucoup plus de temps en salle de musculation. Mais aujourd'hui je fais des sports d'endurance qui font pas prendre de muscle, beaucoup, notamment sur le haut du corps. Mais c'est, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas un sujet. Et d'ailleurs, je me suis souvent, j'ai eu l'occasion, lors de stages d'entraînement, d'aller faire mes séances de musculation et d'entraînement dans des salles plutôt de fitness, de gens qui viennent. Et je me suis senti souvent en décalage, parce que je voyais bien qu'on n'était pas dans la même logique. Moi, la musculation était un moyen pour une performance sportive. Là, c'est un moyen pour des raisons esthétiques. Et donc, ça crée des cultures qui sont complètement différentes et presque des incompréhensions. Voilà. Donc,
En tout cas, malheureusement, l'interview s'achève, mais j'avais une dernière question, Stéphane Diagana, à tous les jeunes des milliers de jeunes qui vous regardent, leurs parents qui vous ont acclamé dans les stades il y a quelques années, à tous ces jeunes qui viennent de vivre des moments difficiles, une année difficile, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir aujourd'hui pour leur avenir?
Le message d'espoir, et je parlais du champion et de l'espoir, c'est vraiment de mesurer à quel point on a la main. Alors bien sûr, il faut de la chance, bien sûr il y a le destin, bien sûr il y a, mais à quel point on a la main sur ce qui nous arrive. On peut décider de ne pas s'enfermer dans tous les déterminismes, aussi forts soient-ils et aussi indiscutables soient-ils. Il y a de la place pour s'en affranchir, et vous verrez toujours des gens autour de vous le démontrer, même quand il y a eu des accidents très très durs, qui ont une capacité de résilience, on dit de rebond. Il y a de la place pour écrire sa vie. Donc profitez, essayez de prendre le stylo, posez-vous, prenez le stylo pour écrire votre vie, ça vaut le coup, parce que de toute façon, rien que la démarche en elle-même vaut le coup, même si elle ne vous emmène pas là où finalement vous souhaitez aller, ce sera une démarche très très positive et très bénéfique.
Merci infiniment, les amis. Vous avez chacun à sa place pour écrire sa vie, comme vient de nous le dire notre ami Stéphane Diagana. Stéphane, un très grand merci pour ce
moment.
Merci
également, merci de l'invitation.
D'humanité et de votre passion pour le sport. Et j'aimerais terminer par Voltaire.
Ah, que j'aime beaucoup.
Voltaire qui souligne: le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, voilà ce qu'il faut faire pour être heureux. Stéphane Diagana, je crois que vous êtes un sportif heureux. Vous venez de nous le démontrer pendant cette interview. Nous avons envie de vous suivre, je dirais, non plus dans les stades, parce que vous ne courez plus, mais avec toutes les activités que vous avez. Vous donnez beaucoup de conférences, c'est ça, à travers la France. Et pouvez-vous simplement nous parler de quelques secondes de ces conférences que vous donnez? Quel est l'objectif? Et à qui s'adresse-t-elle?
Alors, j'interviens beaucoup en conférence d'entreprise, assez régulièrement. Ça m'arrive aussi d'intervenir auprès de jeunes sportifs. Ma fédération d'origine, la Fédération française d'athlétisme, me l'a déjà demandé. Je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. L'idée, c'est de montrer justement ces dynamiques collaboratives dans un sport dit individuel comme le mien, où effectivement, on est très seul sur la piste. Et là, je ne veux pas vous le cacher, quand on a beaucoup d'adversité et qu'on est seul pour y faire face, on se sent très seul, mais il faut y être préparé. Et j'essaie d'expliquer à quel point c'est un travail d'équipe de pouvoir arriver à ce niveau d'excellence, de pouvoir arriver à ce niveau d'autonomie. Et donc j'explique, voilà, les collaborations, le rôle de l'entraîneur, la délégation. Moi, j'avais un entraîneur qui disait, voilà, si j'ai bien fait mon travail le jour d'une finale olympique, je ne dois pas être utile à autre chose que tenir ta bouteille d'eau. Donc voilà, c'est sa vision de l'accompagnement du transfert.
Et vous avez un site internet où on peut vous retrouver?
Oui, stéphanediagana.fr.
Voilà. Les amis, allez voir stéphanediagana.fr si vous avez besoin de conseils. Stéphane Diagana, un très grand merci. Bon courage,
merci.
Et bonne continuation
à vous.
Et vive le sport et la philosophie.
Gentil, merci.